Cinémag sur Radio Grand Ciel, une émission de l'option cinéma du lycée Rotrou de Dreux, proposée par
Sandrine Cornu,
Christelle Vaudève
et Thierry Méranger. Bonjour à toutes et à tous, voici le nouveau numéro de Cinémag, le magazine ciné de Radio Grand Ciel. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Au revoir là-haut, le nouveau film d'Albert Dupontel. On connaît bien Albert Dupontel, c'est un des acteurs majeurs du cinéma français, c'est aussi un cinéaste d'importance. Et le nouvel opus, nous sommes allés le voir pour vous. Christelle et Sandrine vont nous en parler. Alors Christelle, de quoi parle Au revoir là-haut ?
Alors, Au revoir là-haut nous raconte l'histoire de deux poilus qui, au sortir des tranchées, où ils ont évidemment connu de nombreuses souffrances, vont se mettre en tête de mettre sur pied une terrible arnaque au niveau national. Et voilà, ce qui est intéressant de signaler, c'est que ce film de Dupontel est une adaptation, donc adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaitre, qui est sorti en 2013 et qui a obtenu en 2013 le prix Goncourt. Alors, la question de l'adaptation est souvent une question un petit peu délicate. J'avoue que je ne suis pas forcément une fan des adaptations, a fortiori quand j'ai beaucoup aimé le roman, ce qui est le cas pour le roman de Lemaitre. Et pour le coup, l'intérêt, un des intérêts du film, bien sûr, il n'y a pas qu'un, mais un des intérêts du film, c'est que on retrouve dans le film de Dupontel tout ce que j'ai aimé dans le roman de Lemaitre, notamment au niveau d'une galerie de personnages absolument foisonnante, donc aussi bien des personnages touchants, voire bouleversants, ou plus croquignolesques. Pour certains. Donc ça, c'est un des aspects très réussis du film, à mon avis. En tout cas, on est bien dans l'esprit du roman de Lemaitre. J'avoue quand même aussi que j'ai été assez surprise quand j'ai appris que Dupontel avait décidé d'adapter ce roman de Pierre Lemaitre. On connaît Dupontel qui quand même est un cinéaste assez ancré dans son époque, et ça me paraissait un petit peu surprenant qu'il se plonge aussi loin en arrière pour se concentrer sur le sortir de la Première Guerre et les années folles. Mais à bien y réfléchir, on retrouve quand même, notamment dans l'idée centrale du roman de Lemaitre, cette idée donc de très cynique par rapport à cette gloire du sacrifice et au patriotisme, on retrouve évidemment une idée qui avait de quoi séduire Dupontel, et cet attachement de Dupontel pour des personnages qui sont des personnages un petit peu cabossés par la vie, qui sont un petit peu à la marge, et on retrouve toute l'affection que Dupontel peut apporter aux personnages plus contemporains qu'il a déjà pu créer. Donc ça, c'est aussi une des grandes réussites du film, à mon sens.
Alors, qui dit personnage dit acteur. J'ai l'impression qu'il y a une très belle distribution dans Au revoir là-haut. Qu'en dis-tu, Sandrine ?
Oui, c'est le cas. Alors, bien sûr, Albert Dupontel joue dans son film. Il a un jeu assez maladroit, mais qui correspond parfaitement à son personnage de soldat, ex-comptable, oublié de sa petite amie, assez rustre tout de même, malgré une certaine tendresse quand même aussi du personnage.
Oui, il y a toujours ce côté un petit peu burlesque dans l'interprétation
même
de,
dans son,
de Dupontel.
Dans son costume, costume jaune canari.
Toujours un petit peu décalé, une fois, mais en même temps, toujours empreint d'humanité aussi.
C'est ça, exactement. Alors, il y a bien sûr, pour moi, celui qui tire encore plus son épingle du jeu dans ce film, c'est l'Argentin Nahuel Pérez Vizcayart. Il a un rôle ici très différent de 120 battements par minute de Campillo, puisque dans le film de Campillo, il avait un rôle assez bavard, alors qu'ici, il est presque muet, c'est une gueule cassée. Il a été défiguré en sauvant son ami, justement, son ami Maillard. Et il va... Pour jouer ce rôle, il a essayé de trouver une voix assez caverneuse, assez gutturale. Et il a une petite fillette qui l'accompagne et qu'il prend sous son aile, qui va traduire un petit peu ses émotions et tout ce qu'il ressent à ses amis et au monde entier. Alors, bien sûr, Christelle, il y a aussi le père Péricourt, qui est joué par Nils Arestrup, qu'on connaît déjà dans ce genre de rôle.
Oui, c'est ça, quand même un personnage empreint d'une certaine dureté, hein, voire d'une certaine froideur.
Exactement.
Mais qui finalement va se révéler peut-être un peu plus flexible. En tout cas, ce sont des personnages qui évoluent. C'est aussi l'intérêt des personnages ici, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas monoblocs, mais vont avoir une certaine évolution au travers de toutes les aventures du film.
C'est aussi le cas de Madeleine Péricourt, qui est interprétée par Émilie Dequesne. Donc on la retrouve en compagnie de Nils Arestrup, comme on les avait retrouvés déjà chez Joachim Lafosse dans À perdre la raison. Donc elle aussi évoluera dans le film, hein. Elle n'est pas si douce qu'on le croit.
Pas si mièvre qu'elle pourrait en donner l'impression, en tout cas.
Exactement. Et elle est mariée dans le film à Pradel, qui est interprété par Laurent Lafitte et qui excelle dans ce rôle de salaud, infidèle, capable de tuer des hommes au combat dans le dos et d'être irrespectueux envers les morts et de faire du trafic.
Voilà, sur le dos des morts de la Grande Guerre.
Et c'est un peu un contre-emploi, ça, pour Lafitte.
Oui, pour le coup, et j'avoue que, bon, encore une fois, en lisant le livre, je m'étais évidemment fait une image de Pradel et que je n'aurais pas du tout imaginé sous les traits de Laurent Lafitte. Et pour le coup, ça fonctionne très bien, parce qu'il, voilà, cette espèce de physique un peu angélique, quand même. Sous ce physique, on trouve effectivement un salaud, disons-le comme ça. Et ça fonctionne très bien. Mais il faut quand même souligner effectivement son jeu d'acteur, qui est quand même assez intéressant.
Alors, il y a aussi les seconds rôles qui sont quand même aussi très soignés. Le casting a vraiment été très soigné aussi à ce niveau-là. Notamment, on retrouve Mélanie Thierry qui joue le rôle de la bonne des Péricourt, ou encore l'inspecteur Christelle.
Alors, oui, petite mention spéciale pour Michel Villermoz qui est absolument... absolument génial, complètement délirant. Et pour le coup, quand on lit le roman de Le Maître, c'est forcément à Michel Villermoz qu'on pense. Là, je pense que ça n'aurait pas pu être interprété par quelqu'un d'autre. C'est absolument délicieux, de bout en bout. Il est absolument hilarant et génial.
Car il faut le dire, c'est un film qui oscille entre mélodrame, mais aussi film de guerre, hein, comme un peu à la Kubrick avec Les Sentiers de la Gloire. Et la première partie du film,
la première séquence
de combat,
notamment, voilà, est absolument saisissante. On a vraiment le sentiment d'être au milieu de la tranchée avec
les
soldats. C'est terrifiant. Mais, ouais.
Mais c'est aussi plein d'humour, notamment avec Michel Villermoz.
Oui, c'est ça. Il y a encore une fois un personnage un petit peu décalé. C'est vrai qu'on va un petit peu osciller comme ça en matière de ton entre parfois une espèce de farce assez caustique, hein, mais très noire. Il y a quand même un humour assez grinçant. Bon, Dupontel oblige, et effectivement des aspects beaucoup plus mélodramatiques et à certains moments on est dans une reconstitution historique d'ailleurs qui est très bien faite, hein. Les années folles sont remarquablement retransmises et tout ça fonctionne très bien.
Et quand tu parlais de farce, on pense à la scène de la fête à l'hôtel Lutetia avec justement ces masques grotesques qui rappellent cette idée de farce aussi.
Oui, et pour le coup, pour rebondir sur la question des masques, là, je trouve qu'il y a une idée absolument, une trouvaille visuelle absolument remarquable dans le film. Tu parlais de l'interprétation de Biscay Hart, bien qu'il soit quasiment muet pendant tout le film et qu'il soit défiguré, donc on ne voit que ses yeux quasiment pendant tout le film, donc trouve le moyen de nous émouvoir vraiment. Et alors, il y a la question de cette trouvaille visuelle des masques, puisque le personnage étant une gueule cassée, il va s'inventer des masques qui vont au gré de son humeur changer. Et ça, c'est absolument remarquable. Je trouve que c'est un plus vraiment formidable ajouté à ce personnage par rapport évidemment au roman de Le Maître.
Alors justement, les masques, on peut peut-être signaler quand même qu'ils ont été faits par Cécile Kretschmer, et je pense que c'est important de souligner son travail, car en effet, comme tu le dis, il y a une telle poésie dans ces masques, et on retrouve aussi tout l'art de cette partie de l'histoire avec des choses très différentes. Je pense notamment au premier masque qu'il met, le masque un peu de la Renaissance de Péricourt avec ce masque un peu vénitien. Mais on a aussi des masques à la Picasso, un peu cubiste avec cette femme, ce masque de femme, ou encore ce masque blanc avec une bouche comme un smiley qui pleure ou qui rigole. Donc c'est assez touchant. Et c'est plein de poésie,
c'est
en effet,
de ce
point de vue-là.
Pour avoir déclenché la guerre, pour avoir aimé l'affaire, pour en avoir profité.
Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines.
Pas d'affaires, pas de vertu.
Vous êtes tous condamnés à mort.
Regardez !
Ta famille, ça fait 4 ans qu'il attend.
Ton père, il sera content que tu rentres de la guerre, même avec le visage un peu esquinté. Et maintenant que la guerre est finie, tu veux disparaître.
Il ne reste rien de lui.
Si.
Un dingue qui vit masqué, qui dessine à longueur de journée.
Tu vends des monuments aux morts.
Il dit non aux vivants.
Ah, c'est bien, c'est bien. Et après ?
Il dit on se barre avec la caisse.
Alors, que dire sur l'esthétique de ce film ?
Alors, l'esthétique est très léchée, il y a une caméra aérienne très virevoltante, avec de longs mouvements de caméra très amples, et de nombreuses plongées totales sur de nombreux plans. Il y a un gros travail pictural dans ce film, il y a des plans tableaux, il y a un travail sur la couleur aussi, une couleur un peu sépia qui n'est pas sans rappeler celle de Jean-Pierre Jeunet dans Un long dimanche de fiançailles. Et puis, il y a aussi... Enfin, le film est tourné en numérique, mais il donne quand même l'illusion d'être de cette époque, quand même. Enfin, il laisse cette illusion, je trouve.
Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y a un travail assez intéressant sur l'esthétique du film. Bon, effectivement... c'est pas tellement la lumière finalement qui m'a gênée, mais parce qu'effectivement c'est quand même assez lié à l'époque, on va dire, cette idée un peu sépia. Je suis un peu plus réservée sur la caméra, comme tu disais, très virevoltante, où parfois on se demande un petit peu pourquoi toutes ces virevoltes. Justement, bon, il y a certains plans pour lesquels ça se justifie, je pense notamment aux scènes de combat par exemple, où il y a des moments où la caméra tourne un petit peu dans tous les sens, ce qui me semble parfois un peu vain. Voilà, c'est un petit peu la réserve que j'aurais sur le film. C'est quand même assez minime. Il faut bien le dire.
Alors, au niveau esthétique, on peut aussi parler du soin apporté au décor, tout de même, et aux costumes, hein, que ce soit les costumes des poilus dans les tranchées ou les costumes de la bourgeoisie des années folles, oui. Hein, qui sont quand même...
Oui, un travail assez remarquable de reconstitution historique. Exactement. Effectivement. On est vraiment plongé totalement dans cette époque, et ça, c'est une des grandes réussites du film aussi, bien que ça ne suffirait pas à en faire un bon film. Mais
non,
disons que c'est
tous
un
les
atout
ingrédients
particulièrement intéressant, un atout supplémentaire. Ouais.
Donc en résumé, vous conseillez de voir ce film ?
Oui, à la fois pour sa dénonciation sociétale sur cette époque-là, pour sa poésie et moi particulièrement pour le jeu de Pérez Biscayart et notamment ses yeux, l'expressivité de son regard, les gros plans sur ses larmes, ouais. À travers un masque par exemple de pan, un bleu magnifique.
C'est quand même une grande performance d'acteur.
Exactement. Je pense que c'est une des révélations de cette année au niveau cinématographique.
Et on se quitte avec un extrait de la BO du film. C'est signé Christophe Julien, qui est le compositeur attitré d'Albert Dupontel. Il a déjà fait 2 longs métrages avec lui avant Au revoir là-haut. Il faut savoir que la BO utilise des morceaux préexistants de Nino Rota, d'Ennio Morricone ou de Cliff Martinez, mais qu'il s'agit bien ici de compositions originales.